système politique belge est-il dans une impasse? Pascal Deluit, professeur à l'Université libre de Bruxelles, était à Bouillon le 17 octobre 2016.
Donc, monsieur le président, monsieur le bourgmestre, monsieur le préfet, merci beaucoup pour votre invitation. Je suis très heureux d'être ici pour l'extension de l'ULB de Bouillon et pour l'extension de l'ULB. Donc, la question qui nous occupe ce soir, c'est le système politique belge confine-t-il à l'impasse? On pourrait dire, dans une certaine mesure, au terme de cette semaine et au début d'une nouvelle semaine, que la réponse s'impose presque d'évidence. Oui, il confine à l'impasse, mais évidemment, un politologue ne va pas aborder une question aussi importante, aussi délicate, aussi compliquée, à l'aune simplement de l'actualité. Et donc, pour l'aborder, je vais défendre une hypothèse et remonter dans le temps pour expliquer la défense de mon hypothèse. Mon hypothèse, c'est que oui, de manière générale, le système politique belge confine à l'impasse. Le processus de formation des gouvernements, le processus décisionnel des gouvernements fédérales, des gouvernements des entités fédérées est de plus en plus complexe. Et donc, l'observation, et on peut prendre pas simplement l'élection de 2010 qui a mené à de nombreux jours de négociations pour l'établissement d'un gouvernement le 6 décembre 2011. Mais si vous regardez au terme des élections de 2007, au terme des élections de 2010, au terme des élections de 2014, vous observerez que chaque fois, ça n'a pas été simple de former un gouvernement et parfois aussi avec un lien dans la confection des exécutifs fédérés. Alors, pourquoi cette hypothèse? D'abord, pour des raisons belgo-belges, mais je vous expliquerai aussi qu'il faut examiner cette question-là aussi dans un cadre un peu plus large, qui est le cadre européen, parce que généralement, on a tendance à singulariser. Quand on parle de la Belgique, on n'examine que la Belgique. Quand on parle de la France, on n'examine que la France. Et chaque fois, on croit que chaque cas est singulier, mais en réalité, quand on est dans une perspective un peu comparée, on voit différents éléments, différentes composantes qui, en réalité, sont assez semblables. Donc, à la fois une dimension européenne et une dimension belge. Pour revenir à cette configuration de l'impasse potentielle du système politique belge, il faut vous dire qu'en fait, le système politique est quelque chose, par définition, par essence, évolutif. Et donc, si on revient dans l'histoire, eh bien, on peut considérer, de manière très générale, de manière très large, je ne vais pas les développer longuement, bien sûr, qu'il y a 5 phases dans l'évolution du système politique belge. La première, qui est une phase assez courte, hein, la dizaine d'années ultérieurement à la déclaration d'indépendance, qui est ce qu'on appelle la phase unioniste, de 1839 en gros à 1894, un système politique bipartisan marqué par une dynamique majoritaire, j'y reviendrai dans un instant. De 1894 à 1945, l'entrée dans un système politique plus multipartite et aussi marqué par ce qu'on pourrait appeler une dynamique proportionnelle. De 1945 à 1961, une phase très intéressante puisque c'est une forme de rétraction par rapport à la dynamique précédente qui était une phase d'ouverture vers le multipartisme, ce que j'appelle une rétraction majoritaire. Et enfin, depuis 1961, une ouverture forte du système qui dévoile différentes composantes. Alors revenons rapidement sur ces 5 phases. La première phase est une phase assez courte. On l'appelle la phase unioniste. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ce n'est jamais que la continuation de ce qu'on a observé préalablement à l'indépendance belge. L'unionisme naît officiellement en 1828 et on parle d'unionisme pourquoi? Parce que c'est l'union des deux grandes sensibilités qui vont être à l'origine de la Belgique, à savoir la sensibilité catholique d'un côté, la sensibilité libérale de l'autre côté. Et cette union des deux sensibilités conteste un certain nombre de décisions de la Maison d'Orange, non pas originellement dans une perspective d'indépendance des provinces méridionales des Pays-Bas, mais pour changer un certain nombre de choses. Et puis, par un effet d'emballement et par ailleurs par un effet de crise économique assez profonde à la fin des années 20, cet effet d'emballement va déboucher sur la proclamation de l'indépendance belge au début du mois d'octobre 1830. Alors, cette union des deux sensibilités, qui par ailleurs s'affronte sur d'autres questions, j'y reviens dans un instant, va se poursuivre pendant une dizaine d'années. dans une logique de coopération et de conflictualité. Dans une logique de coopération, pour une raison simple, c'est que l'indépendance belge a certes été reconnue en 1831 par les principales puissances de l'époque, en particulier, bien sûr, la France, la Russie et le Royaume-Uni, mais elle n'a pas été reconnue par les Pays-Bas initialement. Il faudra attendre 1839 pour que les Pays-Bas reconnaissent l'indépendance belge. Et donc, tant que la figure de l'ennemi était bien présente, je dirais charnellement et en représentation, ben, l'unionisme s'est perpétué. Et donc, dans la première phase de la Belgique, en fait, on a des gouvernements de ce qu'on pourrait appeler d'union nationale, hein, qui associent des sensibilités catholiques et des sensibilités libérales. Donc, une forme d'union contre l'ennemi potentiel, Guillaume d'Orange, qui d'ailleurs un temps va essayer de récupérer la Belgique, mais vainement. Ça n'empêche pas le début de la conflictualité entre ces deux grandes sensibilités, hein, et vous en avez une illustration dans un domaine que je connais bien, qui est le monde universitaire, puisque vous le savez, l'Université catholique de Louvain, ce qui va devenir l'Université catholique de Louvain, et l'Université libre de Bruxelles, qui est à l'origine l'Université libre de Belgique, naissent la même année, et ce n'est bien sûr pas un hasard. Libéraux et catholiques veulent chacun former les élites, et donc font et construisent et bâtissent deux universités, hein, où ils espèrent pouvoir façonner l'opinion des élites. Donc, il y a à la fois la phase, hein, la dynamique de coopération, mais déjà on sent que un phénomène de distanciation se produit, et celui-ci va s'affirmer de manière très nette à partir de 1839. Pourquoi à partir de 1839 ? Parce que c'est la date de reconnaissance de l'indépendance de la Belgique par les Pays-Bas. Et de cette date jusqu'à 1894, en gros, la Belgique va être marquée par une vie, dans les termes qu'on dirait contemporains, bipartisane, c'est-à-dire une situation d'alternance simple, soit un gouvernement catholique, soit un gouvernement libéral, le plus souvent. Bien sûr, il y a eu certains exécutifs qui associaient certaines sensibilités catholiques et libérales, mais grosso modo, à partir de 1839, on rentre dans une dynamique où, petit à petit, c'est soit des gouvernements homogènes catholiques, soit des gouvernements homogènes libéraux, et une ligne de fracture sépare les deux partis. Cette ligne de fracture, c'est ce qu'on appelle dans notre jargon le clivage philosophique, hein, c'est-à-dire le rapport à l'Église et à l'État, entre d'un côté le monde catholique qui estime qu'il faut une certaine confusion entre l'Église et l'État, et qui estime surtout qu'on doit agir dans une dynamique de principe de subsidiarité. Le principe de subsidiarité, c'est les pouvoirs publics n'interviennent pas tant qu'un acteur intervient sur une question donnée. Et donc, j'y reviendrai dans un instant, ça s'oppose à une vision libérale qui estime que l'action de l'État doit être indépendante de l'Église et doit être une action propre. Et vous le savez, la question clé sur laquelle va se fixer le clivage philosophique, c'est la question scolaire. Hein, et par rapport à ce principe de subsidiarité, le propos catholique est assez simple. Dès lors qu'il y a des écoles catholiques, il y a des écoles libres confessionnelles dans les communes, il n'y a pas de raison qu'il y ait des écoles officielles, puisque l'État ne doit intervenir qu'à type subsidiaire. Et le point de vue libéral est évidemment différent, qui estime qu'il doit y avoir un enseignement public dans les communes, sachant qu'à l'époque, aujourd'hui il y a 589 communes, mais à l'époque le nombre de communes varie entre 2000 et 2500, donc on est dans un autre registre. Et donc de 1839 à 1894, vous avez un clivage philosophique qui s'affirme, particulièrement sur la question scolaire, mais pas exclusivement sur la question scolaire. Vous avez aussi toute la question de la charité, appelons-la comme ça, et une question qui est encore à la une de l'actualité en termes de clivage philosophique, qui est ce qu'on pourrait appeler la question sanitaire, hein, notamment ce qu'on fait dans les hôpitaux. Et vous le savez, la question sanitaire, le monde de la médecine, le monde des hôpitaux, ça nous ramène à des questions où, en général, les points de vue philosophiques peuvent différer, la question de la vie et de la mort. Et ce n'est pas un hasard si la fin du XXe siècle, le début du XXIe siècle, a été marqué par la question de l'interruption volontaire de grossesse ou la question de l'euthanasie, question de la vie et de la mort. Donc, dynamique majoritaire fondée principalement sur le clivage philosophique. Nous avons un système politique à l'époque extrêmement simple. Gouvernement homogène catholique, au gouvernement homogène libéral. Cette dynamique-là se termine en 1894. Pourquoi 1894 ? 1894 est une date très importante en Belgique du point de vue électoral. C'est une élection générale, ce qui à l'époque est l'exception. À l'époque, on a plutôt affaire à des élections partielles. C'est une élection générale, mais surtout, c'est une élection qui intervient dans un contexte de règles électorales nouveaux. Quel est ce contexte de règles électorales nouveaux ? C'est qu'en 1893, le législateur a opéré une extension du corps électoral. Jusqu'alors, on était dans un corps électoral basé sur le sang, c'est-à-dire qu'il fallait payer un certain impôt. Ça concernait au maximum 1,15% de la population. À partir de 1893, on est dans une logique d'extension et on adopte ce qu'on appelle le suffrage universel masculin, tempéré par le vote plural, c'est-à-dire que certains électeurs avaient deux voix et d'autres trois voix, principalement sur un registre toujours d'impôt ou sur un registre capacitaire, notamment le fait d'avoir fait des études universitaires. Pourquoi cette adoption ? Tout simplement parce qu'un parti nouveau a vu le jour en 1885, et c'est sa revendication première. Ce parti, c'est le Parti ouvrier belge, ancêtre de l'actuel PS dans le spectre francophone et SPA dans le spectre néerlandophone. Et donc, cette naissance du POB traduisait à la fin, je dirais, la fin du caractère exclusif du clivage philosophique et l'émergence de ce qu'on appelle la question gauche-droite sur les questions socio-économiques. Et le POB a d'emblée demandé la participation à la vie politique, la participation à la vie sociale de tous les citoyens, singulièrement le monde qui l'encadrait le plus, à savoir le monde ouvrier. Et c'est au terme d'une grève générale en 1893 que cette loi est adoptée. C'est d'ailleurs à l'époque qu'on adopte aussi, ce qui est toujours d'actualité en Belgique, le principe de l'obligation de vote. Le principe de l'obligation de vote date de 1893 pour une raison simple, c'est que le gouvernement à l'époque était un gouvernement homogène catholique et que les édiles catholiques craignaient une démobilisation des paysans et une forte mobilisation des ouvriers et des citadins de manière générale. Et donc, pour éviter que les paysans ne restent dans leur champ le dimanche matin, eh bien, on a introduit l'obligation de vote. Et par ailleurs, on a introduit le congé du dimanche matin, la dynamique de vote communautaire que certains d'entre vous ont peut-être encore connu ou discuté avec vos parents ou vos grands-parents. On allait voter soit à partir de l'église pour les catholiques, soit à partir de la maison du peuple pour les socialistes, soit à partir d'un restaurant ou au terme d'un banquet pour les libéraux. Des choses qui étaient assez classiques. Et donc, ce qui était important pour notre problématique, c'est à l'époque que le système politique se diversifie un peu, c'est-à-dire qu'on sort de la dynamique soit de gouvernement catholique, soit de gouvernement libéral, d'une part, puisque à partir de 1894, il y a des députés du Parti ouvrier belge. D'autre part, le clivage philosophique n'est plus exclusif. Il y a le différent philosophique, le différent socio-économique, et à la fin du siècle, progressivement, une autre question, le différent linguistique. Et donc, le système politique se diversifie et s'ouvre un peu, d'autant que, en 1899, va intervenir une autre modification de la législation électorale qui est importante pour bien comprendre ce qui s'est passé par la suite. C'est le passage d'un mode de scrutin de type majoritaire, qui était à l'œuvre jusqu'alors, vers un mode de scrutin proportionnel, qui est toujours le cas aujourd'hui. Toutes les échéances électorales en Belgique, à tous les échelons, communal, provincial, fédéral, régional, communautaire pour la communauté germanophone et les élections européennes, on a affaire à un mode de scrutin proportionnel. Et donc, à partir de ce moment-là, eh bien, le multipartisme est garanti et on va avoir progressivement, vous le savez, la construction de deux grands acteurs politico-sociétaux. On peut les appeler comme ça, deux grands acteurs politico-sociétaux, qu'on appelle dans notre jargon des piliers. Ça vient d'un terme d'un politologue hollandais qui s'appelle Arend Leipart, de pilarisation, donc la pilarisation d'une société. Et les piliers, c'est quoi ? C'est simplement, dans une certaine mesure, l'idée que les questions qui divisent les citoyens ne sont pas simplement que du registre de la vie politique, donc de l'organisation partisane, mais qu'ils touchent à toutes les sphères de la société. Et donc, vous avez encore beaucoup, je dirais, de traduction aujourd'hui de cette pilarisation historique. Le monde social, les organisations syndicales, le monde médical ou sanitaire, les mutualités, le monde des paysans, le Boerenbond en Flandre par exemple, le monde sportif, hein, il y a eu un encadrement catholique sportif, un encadrement socialiste sportif, d'autant que la fin du 19e siècle et le début du 20e siècle, et surtout postérieurement à la Première Guerre mondiale, c'est le développement des sports modernes. Donc vous avez en particulier un encadrement de la gymnastique, du football, de la balle pelote et du cyclisme, hein, qui sont les grands sports qui se développent dans la période de l'entre-deux-guerres. Donc on a cette dynamique proportionnelle qui se met en place, hein, et qui va s'affirmer pleinement au lendemain de la Première Guerre mondiale. Pourquoi au lendemain de la Première Guerre mondiale? Parce que c'est le moment où la majorité catholique se termine aux élections de 1919 dans un contexte nouveau. Ce contexte nouveau, c'est le suffrage universel pur et saint, mais toujours masculin. Hein, le suffrage universel en Belgique n'interviendra qu'en 1948. Les femmes ne se voient octroyer le droit de vote aux élections législatives qu'en 1948 et ne pourront l'exercer pour la première fois qu'en 1949. Et donc la période de l'entre-deux-guerres est une première grande période d'ouverture du système politique avec ces deux grands mondes, le monde catholique d'un côté et le monde socialiste de l'autre. Hein, vous le savez, l'Union catholique avec le syndicat catholique, les mutualités catholiques, le Boerenbond, l'enseignement libre confessionnel, etc., la jeunesse ouvrière chrétienne, etc. Et de l'autre côté, hein, le POB, la CGTB, les mutualités socialistes, les maisons du peuple, les coopératives, etc. Mais vous avez quand même une ouverture, et vous le savez sans doute, dans la période de l'entre-deux-guerres, il y a des nouveaux venus qui vont arriver dans la vie politique. Au lendemain de la Première Guerre mondiale, le Front partait, littéralement le parti du front, hein, donc sur des revendications linguistiques, qui va dans les années 30 donner naissance au Vlaams National Verbond, le parti communiste qui voit le jour en 1921, et Rex à l'élection de 1936. Donc vous avez vraiment cette ouverture du système avec, bien sûr, une contrainte institutionnelle qui est la loi électorale qui la favorise, puisqu'on a affaire à un mode de scrutin proportionnel. Donc, on pouvait dire déjà, et de manière intéressante pour notre propos, 1936 a été le premier grand moment de grandes difficultés de confection d'un gouvernement. Hein, et au bout d'une vingtaine de jours, le roi Léopold III excédé, que le gouvernement ne se forme pas en 20 jours, à l'époque on était excédé quand le gouvernement ne se formait pas en 20 jours, eh bien le roi Léopold III a convoqué, hein, ce qui n'était pas nécessairement les présidents de parti, parce qu'il n'y avait pas toujours le titre de président, mais en tout cas les chefs des partis, pour dire maintenant il faut un gouvernement. Donc c'est une illustration que cette première phase d'ouverture va déjà déboucher sur des difficultés de formation de l'exécutif. Paradoxalement, cette ouverture va être partiellement freinée au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Pourquoi au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale? Parce qu'on va de nouveau avoir une focalisation autour principalement du clivage philosophique. Cette focalisation, elle va se fixer essentiellement sur deux questions, vous le savez, la question royale, donc la question du retour sur le trône du roi Léopold III, où, pour être schématique, vous avez d'un côté le monde catholique qui dit oui, le roi Léopold III doit reprendre ses attributions, et de l'autre côté, le parti libéral, le parti socialiste, le parti communiste, et les organisations qui leur sont proches qui disent non. Hein, et qui va déboucher sur la consultation de 1950, le retour du roi Léopold III et, in fine, son abdication. Et dans ce contexte de polarisation, je dirais, les citoyens se regroupent derrière leur champion, donc les croyants derrière ce qui est devenu le Parti social chrétien Christelijke Volkspartij et les athées ou les agnostiques derrière principalement, pas exclusivement bien sûr, le Parti socialiste belge, le Belgische Socialistische Partij. Et quand bien même la question royale va être, clôturée par l'abdication de Léopold III, l'arrivée sur le trône du prince Baudouin, elle va avoir un prolongement, puisque vous le savez, dans la décennie 50, on va avoir deux guerres scolaires, avec entre 50 et 54 un gouvernement homogène catholique, et entre 54 et 58, un gouvernement dit laïque. À l'époque, on parlait du gouvernement des gauches, hein, qui associait les libéraux et les socialistes. Hein, et le gouvernement homogène catholique va adopter des lois favorable à l'enseignement libre confessionnel, ce qu'on appelle les lois Armel, du nom du ministre de l'Éducation de l'époque, et en contrepartie et en représailles, en quelque sorte, le gouvernement libéral-socialiste va lui adopter des lois plus favorables à l'enseignement officiel. C'est ce qu'on appelle les lois Collard, hein, de Léo Collard, le ministre socialiste de ce gouvernement. Ce moment-là, c'est donc un moment de polarisation et c'est le moment où socio-chrétiens et socialistes captent ensemble le maximum de votes. Hein, on est vraiment dans une situation où les électorats, les communautés se regroupent derrière ce qui apparaît comme le parti qui défend le mieux les intérêts sur cette nouvelle polarisation philosophique. Mais au terme de la législature 1954-1958, un gouvernement minoritaire catholique lance le principe d'un pacte scolaire qui est négocié en 1958 et qui est adopté au printemps 1959. Et ceci est important parce que ça va avoir pour effet, d'abord de créer officiellement deux réseaux, ce qui est toujours le cas actuellement, le réseau officiel et le réseau libre, et dans le libre, bien sûr, le libre confessionnel et le libre non confessionnel. Hein, mais surtout, ça va avoir pour effet de dépolariser le clivage philosophique. Il ne disparaît pas, mais la polarisation qui a été très forte sur la question royale, sur les lois Armel et sur les lois Collard, hein, c'est comme la cocotte minute, on a retiré le bouchon et la vapeur est sortie. Et donc, il y a une dépolarisation du clivage philosophique qui va avoir pour effet quoi ? Que les polarisations vont se fixer sur deux autres grandes questions et qui nous occupent toujours, la question linguistique, hein, et progressivement, au-delà de ce qu'on pourrait appeler l'aspect purement linguistique, le rapport entre l'espace francophone, l'espace néerlandophone ou les trois régions, comme on l'entend, et la question socio-économique. Et donc, à partir de ce moment-là, il va y avoir une première observation, c'est que le Parti libéral va changer d'identité, hein, qui est un élément important à savoir. Jusqu'alors, le Parti libéral, c'est le parti des classes intermédiaires laïques. Hein, laïques. Donc très fort à Gand, à Bruxelles et à Liège en particulier. Mais son identité est d'abord une identité anticléricale. Hein, anticléricale. On n'est pas au Parti libéral si on est un notable catholique, hein, c'est une exception. À partir de 1959-60-61, sous la direction d'Omer Van Oudenhove en particulier, eh bien, le parti va se transformer. Il va d'abord se transformer en nom, il va changer de dénomination, va devenir le parti de la liberté et du progrès, mais surtout il va changer son identité. Hein, ce que nous, c'est ce qu'on appelle, un processus qu'on appelle un réalignement. Hein, il change d'identité à ses yeux et aux yeux des citoyens, de parti d'abord fixé sur la question philosophique, donc d'identité anticléricale, il devient, et c'est toujours le cas pour l'OpenVLD et le MR actuellement, il devient un parti d'abord fixé sur la question socio-économique. Hein, donc le référent devient la question socio-économique, avec une ouverture au monde des croyants. Un certain nombre de cadres du PSC, un peu moins du CVP, rejoignent ce nouveau parti et connaît une avancée très importante dès les élections de 1965. Deuxième élément, dès lors que le clivage philosophique s'est dépolarisé, ben, la communauté des citoyens va aussi avoir un comportement plus diversifié. C'est-à-dire que les catholiques ont été sommés de voter pour le parti catholique, les athées et les agnostiques ont été sommés de voter soit pour le parti libéral, soit pour le PSB. Dès lors que cette question n'est plus au cœur et que par ailleurs, hein, le début des années 60 est quand même aussi le début, hein, de réflexions nouvelles dans le monde catholique et dans le monde laïque, hein, les années 60, c'est le Vatican, le Concile de Vatican II, eh bien, les deux grandes formations, les socio-chrétiens et les socialistes, vont perdre en importance, perdre en poids, et un phénomène qui va se poursuivre singulièrement pour la famille sociale chrétienne. Et puis, ben, on va avoir quoi ? On va avoir l'arrivée de nouveaux venus. Ces nouveaux venus, c'est quoi ? C'est les partis communautaires, ce qu'on appelle à l'époque les partis communautaires, c'est-à-dire la Volksunie, parti de défense des intérêts régionaux ou nationaux flamands, qui voit le jour en 1949, se présente sous le titre de Christelijke Volksunie en 1950, et puis Volksunie à partir de 1954. Vous le savez, le FDF, Front démocratique des francophones, qui est devenu depuis Défi. Donc j'ai chaque fois du mal à... Donc Défi, c'est fédéraliste indépendant, et le DE, ça va me revenir. Et vous avez le Rassemblement Wallon, qui voit le jour formellement juste avant les élections de 1968. Vous allez d'ailleurs avoir plus tard l'arrivée de nouveaux venus, hein, le Vlaams Blok, parti d'extrême droite, qui voit le jour en 1978, hein, qui est un cartel de deux dissidences de la Volksunie, et en 1985, un parti d'extrême droite francophone, le Front National. Donc vous voyez trois choses importantes à retenir. Le statut nouveau des libéraux, l'érosion, et parfois un peu plus que l'érosion, des socialistes et des sociaux-chrétiens, et l'arrivée de nouveaux venus dans le paysage politique. Et donc, bien sûr, il n'y a pas que l'extrême droite, hein, vous le savez sans doute, en 1980, voit le jour Écolo. Or, pour votre information, Écolo, c'est un acronyme, donc c'est écologiste confédéré pour l'organisation de lutte originale. Et Agalef, qui est devenu Groen depuis lors, donc c'est Anders kan leven, littéralement, on peut vivre autrement est possible, quelque chose comme ça. Alors après, il ne faut pas oublier une deuxième dimension qui explique aujourd'hui une grande difficulté dans le système politique fédéral. Cette deuxième dimension, c'est la scission des partis nationaux. Hein, il faut rappeler qu'aujourd'hui, presque tous les partis sont des partis sur une communauté. Le Parti socialiste sur la communauté française, le SPA sur la communauté flamande, Écolo sur la communauté française, Groen dans l'espace néerlandophone, l'Open VLD, le MR, le CDNV, le CDH. Alors certes, ces partis ont des liens entre eux, des discussions entre eux, mais ce sont des partis indépendants. Donc vous rendez la fragmentation plus forte encore. Hein, cette scission est intervenue en 1968 autour de la question du déménagement de la branche francophone de l'UCL de Leuven, chez les libéraux en 1972 et chez les socialistes après l'échec du pacte d'Egmont en 1978. Au final, qu'observe-t-on ? Ce qu'on observe, hein, c'est qu'on a un recul des partis dominants, singulièrement des partis socio-chrétiens, et l'arrivée de beaucoup d'acteurs dans la Chambre des représentants. Alors, si vous regardez les performances électorales, ben vous verrez que tendanciellement, les grands acteurs diminuent. Hein, à titre d'exemple, le CDH, qui est le successeur du PC, a, lors des trois dernières élections, quasiment atteint ses trois plus mauvais résultats, et aux élections de 2014, pour la première fois, est passé sous la barre des 14%. Son alter ego néerlandophone ne se porte pas beaucoup mieux, puisque aux élections de 2010 et de 2014, pour la première fois, il est passé sous la barre des 20%, avec 17,6% en 2010 et 18,6% en 2014. La famille socialiste ne va pas extrêmement bien non plus, tout particulièrement du côté néerlandophone, puisque si vous acceptez l'élection de 2003, qui est plutôt une élection exceptionnelle, on notera qu'aux élections de 91, de 95, de 99, de 2007, de 2010 et de 2014, ils sont bien en deçà des 20%, et que par ailleurs, aux élections de 2014, le SPA est en deçà de la barre des 15% et obtient son plus mauvais résultat de son histoire. Le Parti socialiste a une courbe un petit peu différente. On notera dans la courbe du Parti socialiste qu'il obtient ses très bons résultats au moment de la polarisation sur le clivage philosophique, aux élections de 49, 50, 54, 58 et encore 61, et puis qu'il a un très long étiage autour de 35% jusqu'aux élections de 81, et qu'à partir de 81, il est dans une logique de ce qu'on pourrait appeler de up and down, hein, une bonne élection, une mauvaise élection. Donc, élection de 87, très très bonne élection, 44%, en 91, 39%, En revanche, c'est ponctué parfois de choses plus compliquées, comme l'élection de 1999, moins de 30%, et surtout l'élection de 2007, égale moins de 30%. Et pour la première fois, vous le savez peut-être, aux élections de 2007, le Parti socialiste a été devancé par le mouvement réformateur, donc par les libéraux. C'était la première fois, sous le suffrage universel, que les libéraux devançaient les socialistes en Wallonie. En ce qui concerne la famille libérale, donc vous voyez le changement de statut avec des performances autour de 10% jusqu'en 61. Et à partir de 65, on rentre dans une logique d'augmentation des performances qui culmine jusqu'aux élections de 2003. Alors ce qui est intéressant à observer dans la famille libérale, c'est que les choses culminent en 2003 et puis commencent à décliner avec un résultat catastrophique en 2010. Alexander De Croo croyait utile et malin de faire chuter le gouvernement. Ben, il aurait bien fait d'écouter l'un ou l'autre politologue qui lui ont expliqué que celui qui crée la crise le paye électoralement. Et vous voyez que dans la phase actuelle, l'OpenVLD est en difficulté, alors que pour ce qui concerne le mouvement réformateur, la configuration est un peu différente. Excellente élection en 65-68, au moment du changement d'identité. Un creux après dans les années 70, et depuis lors, ben, les libéraux francophones, l'EMR dans la période contemporaine, est à un étiage autour de 25%, 24-25%. Alors parfois avec d'excellents résultats, comme aux élections de 2003, 28,5, et surtout, je le précisais il y a un instant, aux élections de 2007, où pour la première fois, non seulement ils devancent le Parti socialiste, mais ils franchissent la barre des 31,1%, mais aux élections de 2014, avec 25,8, ils sont à une bonne moyenne, en deçà des grandes performances, mais supérieure, je dirais, aux performances déjà très bonnes de 95, de 99 et de la performance plus mitigée de 2010. Vous voyez l'importance des nouveaux venus. On l'a oublié un peu aujourd'hui parce qu'il est moins prégnant, mais le Vlaams Belang a atteint jusqu'à 19% des voix à une élection fédérale, celle de 2007. Et je ne vous l'ai pas mis ici, mais aux élections de régionales flamandes de 2004, le Vlaams Belang a atteint 24%, ce qui vous permet de mettre un petit peu en perspective la configuration du paysage politique flamand. Vous le savez, les performances des Verts tournent autour de 7, 8, 9% pour les Verts néerlandophones, et les Verts francophones ont une courbe un petit peu plus chahutée, faite de très bonnes performances, comme en 91, comme en 99, où ils font 18,3%, ou comme en 2007-2010, où ils atteignent autour de 12,5%. Mais dans la période contemporaine, ont aussi connu des choses plus difficiles pour eux. L'élection de 2003, très mauvaise, 7,5%. L'élection de 2014, également mauvaise, 8,2%. L'émergence des nouveaux venus, on en parle pas mal pour l'instant, notamment relativement à certains sondages, celle du PTB, donc du Parti du Travail de Belgique, qui est un nouveau venu assez ancien, puisque le PTB est formellement né en 1979, en réalité existe depuis 1970, sous l'intitulé MADA, le Markt an de Arbeiders, à partir de 74, AMADA TPO, le Markt an de Arbeiders, tout le pouvoir aux ouvriers, 79 PTB, mais vous le voyez, ses performances électorales étaient relativement faibles jusqu'alors, a décroché 5,5% en Wallonie en 2010, ce qui lui a permis d'avoir deux députés fédéraux. Très important, parce que dès lors que vous avez des députés fédéraux, vous émargez au financement public des partis. Alors, avant d'arriver progressivement à mes conclusions, juste deux, trois éléments qui expliquent aussi un petit peu la configuration contemporaine. Ces éléments, c'est quoi ? C'est que dans la période contemporaine, c'est-à-dire de 1970 à nos jours, nous avons aussi, et vous le savez, une grande évolution du paysage institutionnel. Grande évolution du paysage institutionnel qui fait suite, en fait, à une très longue période de stabilité. Si on est schématique, de 1830 à 1970, il y a une grande stabilité, commune, province, État-nation. De 1970 à nos jours, au contraire, on est rentré dans une logique de réforme permanente. Naissance des régions, naissance des communautés et réforme de l'État successive. Première réforme en 1970, deuxième en 1980, troisième en 88, quatrième en 93, cinquième en 2001, sixième en 2011. Donc vous voyez une forme d'accélération et qui a un impact sur le système politique contemporain puisque vous observez les liens étroits entre la confection et la vie du gouvernement fédéral et la confection et la vie du gouvernement des entités fédérées. Alors qu'est-ce qui explique enfin la difficulté du système politique contemporain? Bien sûr, aussi une grande nouveauté, c'est que le premier parti de la fédération de la Belgique est un parti indépendantiste. La NVA est un parti qui formellement a vu le jour en 2002. C'est une des deux formations qui est née de l'implosion de la Volksunie. Regardez, c'est intéressant, en 2003, elle obtient 5%. En 2007, elle fait un cartel avec le CD&V. Elle rompt son cartel en septembre 2008. Et puis, en 2010, elle obtient 28%, puis 32% en 2014. Alors, ces chiffres sont à mettre en relation avec le déclin du Vlaams-Belang, bien sûr. Mais vous voyez qu'en politique, les choses peuvent parfois aller très vite. 5% à quasiment 35%, premier parti. Et vous avez pu l'observer cette semaine, ce premier parti ne se fait pas faute d'observer et de faire observer qu'en réalité, c'est lui le patron. Et l'attitude de Bart De Wever lors de la présentation d'un premier discours de Charles Michel ce jeudi à la Chambre, en train de lire le journal pendant que le Premier ministre présentait des explications, pouvait ne pas être plus clair en termes symboliques sur qui était en quelque sorte le vrai Premier ministre. Et donc évidemment, à partir du moment où vous avez un parti indépendantiste et surtout un parti sans alter ego dans le spectre francophone, c'est aussi un élément évidemment très perturbateur. Alors j'en viens au gouvernement actuel. Alors comment comprendre ce gouvernement actuel et qu'est-ce qu'il dévoile? Juste quelques rappels, une forte minorisation d'un rôle linguistique, le rôle linguistique francophone, puisqu'il n'est représenté que par un parti et 20 sièges. Et bien sûr, cette forte minorisation, mathématiquement, elle ne peut être que celle du spectre francophone. Grande nouveauté depuis 1830, la famille sociale chrétienne est dans des statuts différents. Pour la première fois, les chrétiens démocrates néerlandophones sont au gouvernement, les chrétiens démocrates francophones sont dans l'opposition. Je l'ai dit, le premier parti est un parti indépendantiste, et on l'a encore souligné pas mal ces derniers temps, il y a une asymétrie totale entre les partis de la majorité fédérale et les partis de la majorité à la région Wallonne et à la Fédération Wallonie-Bruxelles-Communauté française, puisque le MR est dans la majorité au fédéral, le PS et le CDH sont dans la majorité à la région Wallonne et à la Fédération Wallonie-Bruxelles. Comment comprendre cette configuration? Je ne vais pas la développer outre mesure, mais trois éléments importants. Premièrement, et on en parle beaucoup de ce parti de nouveau depuis une semaine, c'est le choix liminaire du CD&V. Le lendemain des élections, le CD&V a eu une réunion de son conseil qui a décidé que le parti n'irait au gouvernement qu'avec la NVA. Et à partir du moment où il choisissait la NVA comme partenaire, il détruisait l'autre grande option stratégique qui était une reconduction de la majorité sortante, à savoir les trois grandes familles traditionnelles. Deuxième élément, le choix du CDH de ne pas rentrer dans le gouvernement actuel, la fameuse déclaration de Benoît Lugène, et qui donc a obligé le MR à faire un choix. Et donc dans une certaine mesure, même si ces deux partis s'affrontent durement, ils ont été, le PS et le MR, dans une logique réactive. C'est-à-dire que le PS a dû s'adapter au choix du CD&V et le MR a dû s'adapter au choix du CDH, ce qui explique largement la configuration actuelle. Alors, et après, bien sûr, les politologues ne sont pas des devins, mais qu'est-ce qu'on peut dire ? Premièrement, il y a une interrogation. Il y a une interrogation sur les élections de 2019, sur la tonalité communautaire ou non. Vous m'auriez demandé de faire cet exposé il y a un mois, je vous aurais dit, les élections de 2019 auront une tonalité communautaire. Entre-temps, vous le savez, il y a eu du tohu-bohu à la NVA. Verle Wouters et Hendrik Veuille ont quitté le parti parce qu'ils estimaient qu'il abandonnait son programme communautaire. Donc, ça contredit un peu la perspective que je vous aurais présentée il y a un mois. Mais le nouveau chef de groupe, Peter de Rover, a dit hier qu'il était prêt à s'allier avec le Vlaams Belang pour présenter un agenda communautaire aux élections de 2019. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la NVA joue sur des registres différents, ce qui est assez logique pour viser des catégories électorales un peu différentes. Mais donc, en tout cas, il y a plus d'interrogations qu'il y a quelques semaines sur la tonalité communautaire de l'élection de 2019. Deuxième chose, et on vient à notre problématique, il y a peu de chances qu'au terme des élections de 2019, la situation soit simple. Hein, ça, il y a peu de chances, vous l'aurez compris. D'autant que ce gouvernement, c'est un gouvernement de droite, donc c'est assez logique, prend des mesures de droite, et que donc, pour que la gauche remonte dans un gouvernement, il va falloir déconstruire ce qu'on a construit, ce qui n'est pas simple. Hein, ce qui n'est pas simple. Une des raisons pour lesquelles les choses risquent d'être compliquées, c'est l'affirmation quasi officielle désormais du caractère mutuellement exclusif entre la NVA et l'EPS. Hein, Bart De Wever l'a énoncé encore il y a 15 jours. Hein, pour lui, il n'est pas question d'aller au gouvernement sans la famille socialiste. Et donc, si le premier parti d'une communauté dit que le premier parti de l'autre ne peut pas monter au gouvernement, et réciproquement, mais d'emblée, vous voyez qu'on est dans une difficulté. On est dans une difficulté importante. En même temps, la situation actuelle ne me paraît pas aisément reproductible. Pourquoi ? Parce que je crois qu'il sera très difficile pour le MR d'aller une deuxième fois dans une telle minorisation du rôle linguistique francophone, et encore moins après l'épisode de cette semaine qui a plus que jamais illustré qu'en fait le gouvernement fédéral c'est un gouvernement où le débat se mène entre les partis néerlandophones, hein, où le maire n'a pas de position spécifique et où simplement le Premier ministre Charles Michel a le rôle, qui est un rôle ingrat et difficile, hein, de trouver un point de synthèse entre l'OpenVLD, le CDNV et la NVA. Mais a priori, un parti doit défendre ses propres intérêts. Donc je crois que ce sera difficile, il ne faut rien exclure en Belgique, mais je crois que ce sera une expérience difficile. Au final, ne l'oublions pas, je me permets de vous le dire, parce que, bien sûr, les observateurs, les journalistes ou les politologues peuvent construire des schémas, mais ce qui va être décisif, c'est le choix des électeurs. Il ne faut jamais oublier que les électeurs donnent les éléments qui font qu'on puisse aller dans un sens ou dans un autre. Alors, je voudrais terminer, ben vous le voyez, c'est compliqué, mais c'est un système extrêmement fragmenté. En fait, il y a deux, si on doit simplifier, il y a trois choses compliquées aujourd'hui en Belgique. Un, c'est un système politique très fragmenté à l'échelle fédérale. Deux, contrairement à d'autres États fédéraux, il y a un lien très imbriqué entre le niveau fédéral et des entités fédérées. L'Allemagne, qui est un État fédéral également, n'a pas ce lien aussi imbriqué entre la majorité au niveau fédéral et la politique au niveau fédéral et la politique qui se mène au niveau des Länder. Mais en Belgique, c'est très imbriqué, entre autres parce que les partis sont des partis de communauté et pas des partis fédéraux. Il n'y a plus des partis qui défendent l'intérêt de la fédération. Et donc, ce côté imbriqué est problématique parce que au niveau fédéré, on doit tenir compte de ce qui se fait au niveau fédéral, et au niveau fédéral, on doit tenir compte de ce qui se fait au niveau fédéré. Troisième élément, le fait que le premier parti de la fédération et de la Flandre est un parti indépendantiste rend les choses complexes. Alors, en même temps, si vous regardez un petit peu la configuration telle qu'elle se donne à voir dans plusieurs pays européens, vous observerez un certain nombre de choses. D'un point de vue politique, je vais peut-être en citer l'une ou l'autre. La première, c'est que la fragmentation qu'on observe en Belgique, on l'observe dans d'autres États. Hein, je pourrais vous parler des pays scandinaves, où la fragmentation augmente beaucoup. Vous voyez qu'en Espagne, ni le PP, ni le PSOE ne peuvent décrocher une majorité absolue aujourd'hui. Et même plus, ni le Parti populaire, ni le Parti socialiste ouvrier espagnol ne savent faire une majorité avec un seul partenaire. Il faut un deuxième partenaire, soit qui s'abstient, soit qui les rejoint. Donc ça montre les éléments de fragmentation. Vous savez qu'il y a eu une grave crise en Grèce. Jusqu'aux élections de 2012, le grand parti de la droite, la Nouvelle Démocratie, le grand parti de la gauche, le PASOK, décrochaient ensemble 85% des voix. Aux dernières élections, ensemble, ils ont décroché 33% des voix. Aujourd'hui, au Portugal, on a un gouvernement minoritaire pour la première fois de l'histoire. Donc qu'est-ce que tout ça dévoile? Tout ça dévoile une augmentation de la fragmentation, mais aussi une situation de brouillage des comportements électoraux. Je ne peux pas l'appeler autrement. Situation de brouillage qui n'est pas totalement inédite en Europe. Hein, si on regarde les cinq dernières années des années 30, entre 35 et 40, on observe le même phénomène de brouillage, mais qui rend évidemment les prédictions de plus en plus difficiles. Hein, et je lisais aujourd'hui un article d'un politologue de Bordeaux, hein, qui n'était pas loin de pronostiquer un deuxième tour aux élections présidentielles françaises entre Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Donc c'est vous dire quoi ? C'est vous dire qu'aujourd'hui, en fait, plus rien ne doit nous surprendre. C'est-à-dire que traditionnellement, comment travaillent les politologues ou même les économistes dans une certaine mesure, c'est qu'ils ont des données du passé, ils ont des clés d'interprétation, et compte tenu des éléments et des clés et des données du passé et d'un certain nombre de données prospectives, ils essayent de dire voilà ce qui peut se passer. Mais aujourd'hui, tout ce modèle est bousculé, et en particulier par une plus grande fluidité du comportement électoral, plus grande volatilité du comportement électoral, hein, et la montée en puissance, et c'est par ça que je terminerai, de ce qu'on pourra appeler des partis en périphérie des systèmes politiques. Des partis en périphérie du système politique. On peut considérer que l'ANVA est un exemple en Belgique. Au départ, c'est un parti en périphérie du système politique. Mais au-delà de ça, c'est la montée de partis de droite radicale, comme l'AFD en Allemagne, l'Alternative pour l'Allemagne, le FPE, le Parti de la Liberté en Autriche. Hein, vous savez qu'on va avoir des élections présidentielles reconduites en Autriche parce que la dernière a été annulée. Et à la dernière élection, hein, c'était un duel. Donc je fais une petite parenthèse sur l'Autriche. C'est aussi pour dire que rien n'est singulier. En Autriche, dans les années 70, le total des voix entre le Parti social-démocrate et le Parti de droite, qui s'appelle le Parti populaire, c'était 90% des voix. Aux dernières élections, au deuxième tour, c'était un duel entre un candidat vert et un candidat de la droite radicale. C'est très illustratif, hein, de la chute des partis gouvernementaux et de la montée de la périphérie. Hein, et cette élection va de nouveau avoir lieu. En Suède, un parti d'extrême droite s'est développé, les vrais Finlandais. Aux Pays-Bas, qu'on disait si ouvert, le parti qui est tenté des intentions de vote s'appelle le PVV, Partij voor Vrijheid, qui est un parti de la droite radicale. En Suède, le parti qui est tenté des intentions de vote, c'est le parti de la droite radicale, qui s'appelle les démocrates suédois, il porte mal son nom. Vous le savez, en Grèce, le parti qui a le poste de Premier ministre est un parti de la gauche radicale. En Espagne, c'est bloqué depuis décembre et c'est toujours pas débloqué. Et le parti de la gauche radicale a fait 25% en dernières élections. Et au Portugal, les deux partis de la gauche radicale ont fait ensemble 25% des voix. Donc ceci vous illustre quoi ? Vous illustre qu'il y a, depuis la crise de 2008, une forme de tension sociale qu'on peut observer chez nous et qui se traduit par des comportements nouveaux. Alors, à la fois dans le vote pour des partis à la périphérie, mais aussi parce qu'on le voit moins et on le dit moins, par des comportements de retrait. Hein, et la Belgique est épargnée, partiellement par ça, parce qu'il y a le vote obligatoire, mais on observe une montée assez importante de deux phénomènes. Premier phénomène, la non-inscription sur les listes électorales. Deuxième phénomène, l'abstention électorale, c'est-à-dire on est inscrit mais on ne va pas voter. Hein, et donc ceci nous amène à... Hein, c'est une phrase qu'un politologue m'a dit la semaine passée, tu sais Pascal, plus rien n'est surprenant pour nous maintenant. Je pense que on pourrait l'adapter peut-être pour la Belgique de 2019. Merci beaucoup pour votre attention.
Vous venez d'écouter une conférence organisée par l'extension de l'ULB et enregistrée à Bouillon le 17 octobre 2016 par Pascal Delhuit sur le thème « Le système politique belge est-il dans une impasse ?»
Radio Campus Bruxelles 92.1.